Second souffle,
un méta-réseau
pour le déploiement
de l'éthique en société.
Podcast.
C'est quoi ce gros mot ?
Bonjour et bienvenue sur l'épisode 4 de C'est quoi ce gros mot ? Le podcast qui a pour but d'explorer des notions et des concepts, avec des exemples et avec un aspect pratique de la vie quotidienne, pour les rendre accessibles et compréhensibles. Aujourd'hui, on va parler d'autodétermination et d'émancipation.
On va d'abord parler d'émancipation et puis on viendra ensuite sur le deuxième mot.
Bah moi, émancipation, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un terme juridique quand même. On parle de mineur émancipé, donc c'est-à-dire que c'est un espace où c'est la justice qui prétend qu'un mineur peut avoir des droits payés avec une carte bancaire, etc. Donc c'est-à-dire qu'on lui reconnaît la capacité à pouvoir décider des choses pour lui. Et de pouvoir gérer ses affaires au quotidien, etc. quoi. Mais c'est un peu le seul, en tout cas moi, le seul espace qui est assez clair, voilà.
Mais sachant qu'à ce moment-là, souvent on regarde, est-ce qu'il est indépendant financièrement, mais on n'examine qu'une partie de ses indépendances, on ne les examine pas tous et toutes. Enfin, c'est une critique qu'on peut faire aussi on va pas s'étendre là-dessus, mais du statut d'adulte. C'est est-ce que vraiment on est indépendant dès qu'on est capable juste de se payer ces trucs soi-même? Ça montre juste c'est juste une preuve d'indépendance financière et enfin c'est pas la seule dépendance qui peut exister pour un individu quoi.
C'est ça. On examine les choses pour les mineurs, mais les adultes, on examine rien du tout.
Ouais, et du coup, s'émanciper, c'est être autonome, c'est être indépendant, c'est peut-être les deux. Enfin, moi, je trouve qu'il y a ce truc de « je suis capable de décider pour moi, je suis capable de faire des trucs qui m'apportent de la joie et qui me conviennent à moi, quoi. Et donc, indépendance plus autonomie ont l'air d'aller dans le pack de l'émancipation, si on devait le définir.
Dans l'émancipation, il y a un truc de « je m'autorise », je suis autorisé ou je m'autorise à faire quelque chose ». Que je m'autorisais pas avant quoi. C'est une sorte de processus de libération d'un truc qui m'empêchait de faire des choses. Donc c'est bien un processus quoi. C'est soit un état soit un processus. Il y a le processus d'émancipation et il y a l'état être émancipé, c'est-à-dire être dans un truc où on s'autorise à faire des choses qui normalement devraient être autorisées à tout le monde quoi, et qui sont interdites à une partie des personnes. Voilà.
Du coup, là, tu parles d'interdit, ça me fait penser que l'émancipation, souvent, elle va avec une sorte de mythe de la volonté, elle peut être utilisée de manière problématique au niveau politique, parce que quand on demande à ce que quelqu'un s'émancipe, et que, en fait, on passe d'un interdit à une obligation de faire, d'agir pour s'émanciper, ça devient un problème, quoi.
C'est un peu comme quand on entend dire « si tu veux être une femme émancipée, il faut que tu enlèves ton voile », quoi.
Ouais. Parce qu'en fait, on oublie qu'il y a des points de vue et que c'est émancipé vis-à-vis de quelque chose pour certaines personnes. Quoi.
Ouais. Là, on construit un idéal. Voilà à quoi ressemble une personne émancipée.
Et voilà ce qu'il faut. La seule manière d'être émancipé,
c'est atteindre cet idéal.
Qui est se dévoiler.
et là, on est en train de dire que c'est un problème.
Ouais.
Bon, on est en train de dire, en tout cas, que l'émancipation, ça dépend, c'est pas la même si, que je sois ouvrier, que je sois cadre, etc. En tout cas, on n'a peut-être pas une même vision de ce que c'est être émancipé, quoi.
Enfin, la même situation, on va la rencontrer différemment. Si on est situé, genre, je suis un mec blanc, je vais rencontrer la situation différemment que si la personne en face, c'est une personne meuf ou peu importe, quoi. Parce qu'on aura des constructions sociales différentes, quoi.
Ouais, et tu peux pas parler à sa place de comment elle est censée s'émanciper, sachant que tu vis pas les mêmes interdits qu'elle à ce moment-là, quoi.
Ouais, les mêmes régulations des autres. On a parlé de régulation dans l'épisode 2. Les régulations sont très différentes, justement, quand on est situé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est bien là où il y a un problème dans l'émancipation. Et donc, peut-être qu'on peut trouver des solutions via l'autodétermination.
Ouais.
Qui veut s'exercer à cette définition-là?
Bah, autodétermination, ça voudrait dire... qu'on se détermine soi-même, donc ça s'oppose au fait d'être déterminé par l'extérieur. Donc s'autodéterminer, c'est faire en sorte qu'on agisse de manière à ce que ce soit plus de détermination qui vienne de nous et moins de l'extérieur. Voilà, une fois que ça c'est dit, je suis en galère.
Après, alors, débrouillez-vous avec
on
ça.
On peut essayer de résumer via des concepts qu'on a déjà travaillé. S'autodéterminer, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on est capable... de comprendre là où on est dépendant et indépendant. Donc ça, c'est bien des capacités, on en avait parlé. Donc on est capable de ça, ça c'est un premier point. Et puis on est capable aussi de regarder ce qui agit sur nous, structurellement par exemple.
Ouais, ce qui nous détermine déjà de l'extérieur. Quoi.
Ouais, c'est ça, on parlait de situation, ça veut dire que, bah, je sais pas...
je suis capable déjà de me situer. Des...
Ouais, les autres, l'État, les associations, la mairie, le travail, enfin toutes les institutions, la famille vont agir sur nous. Et donc si on n'est pas capable de voir ce qui agit sur nous, ça va être un vrai problème, on ne peut pas s'auto-déterminer
en
dans
fait, ce cas. Indice, si vous vous dites « moi je suis libre, je fais tout ce que je veux », c'est sûrement que vous êtes assez loin de l'autodétermination.
ça défonce un peu le libre arbitre, on en parlera peut-être aussi, mais c'est donc il y a ce truc-là. On est capable de regarder ce qui agit sur nous, on est capable de savoir là où on est dépendant, là où on est indépendant, on est capable de s'auto-réguler. Et ça veut dire qu'on agit sur nous-mêmes au bon moment pour provoquer des situations qui sont adéquates pour nous-mêmes, quoi, et donc qui nous font progresser dans la vie. C'est aussi le but, quoi, d'augmenter sa connaissance, d'augmenter son pouvoir d'agir sur le monde, etc. Et la quatrième dimension, ce serait celle d'être autonome. On a besoin d'être autonome, d'être dans cet état-là pour pouvoir s'autodéterminer, sinon c'est pas possible, quoi. Donc on aurait cet ensemble-là qui nous permet d'accéder à l'autodétermination, qui est beaucoup plus complexe au final que l'émancipation, mais qui empêche de tomber dans le piège de la volonté, par exemple, parce qu'elle prend nécessairement en compte l'aspect structurel, par exemple. On peut pas le nier à ce moment-là, on peut pas dire c'est qu'une histoire de volonté, c'est plus possible à ce moment-là.
Ouais, et l'autodétermination, elle permet aussi d'aller plus loin que la naïveté de dire c'est bon, je suis autonome, donc tout va bien, puisque en fait si je suis autonome mais que je décide pour moi-même et je suis capable de faire ce que je décide, de ne pas avoir besoin des autres, comme disait Roman tout à l'heure, je peux quand même être un connard, quoi. Je peux très bien le faire tout seul, je peux très bien décider tout seul de faire chier les autres personnes et tout ça. Et en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de manque de... Enfin, il y a un manque là dans ce modèle-là, et l'autodétermination permet de prendre en compte la dimension de comment j'agis sur mon environnement, quelle influence mon environnement a sur moi. Il y a bien une réflexion un peu plus systémique sur comment on se positionne dans un espace et dans les interactions qu'on a avec le monde qui nous entoure.
C'est un truc moins individuel.
Ouais.
C'est vrai. Tu dois regarder en tout cas comment les autres agissent avec toi, et ça me fait penser à la mise en réussite, ce truc là on en avait parlé au tout début sur le premier épisode de la mise en réussite. En fait, à la fin de l'épisode, on avait dit que la mise en réussite, ça ne devait pas être l'obligation de réussite, parce qu'à ce moment là on empêche les gens de s'auto-déterminer, parce que à ce moment là si on enlève la possibilité de faire des erreurs ou des choses comme ça, si on enlève la possibilité d'expérimentation, etc., on ne peut plus s'auto-déterminer parce que c'est l'autre qui décide pour nous,
en se disant mais là elle est pas capable de se réguler elle-même, donc je vais la réguler pour qu'elle soit en réussite. Mais à ce moment là il n'y a plus aucune place à l'expérimentation, à la décision pour soi, donc c'est bien une tension qui existe entre l'auto-détermination et la mise en réussite.
En fait, c'est une grosse question en éducation. Même si on se dit qu'on sait mieux possiblement que l'autre personne, déjà, c'est pour l'autre personne, donc peut-être pas forcément. Et des fois, il y a quand même à voir, est-ce que ne pas agir ou ne pas faire, c'est peut-être mieux que faire quelque chose, quoi.
Mais c'est quand même un acte politique que de vouloir mettre en réussite, parce que, admettons que, par exemple, des enfants n'ont pas accès à plein de lieux, de décisions, d'organisations, d'adultes, quoi. Donc si un enfant à un moment donné casse un truc ou j'en sais rien, enfin c'est arrivé lors d'une colo qu'on a fait en 2016, il y a un môme qui a cassé volontairement une dalle de béton en faisant tomber des trucs lourds dessus. Et je me rappelle, il y avait un anime à l'époque qui était parti avec l'enfant au magasin de bricolage, qui avait racheté la dalle, etc. Avant, ils avaient balisé l'espace autour de la dalle, et donc il y avait eu tout un processus qui avait été fait pour que le môme capte les enjeux autour de ce que c'est que casser quelque chose, quoi. C'est pas juste genre ça va se remplacer tout seul. Et donc la régulation, ça avait bien été donner tous les moyens de compréhension de la transgression faite par l'enfant. Et ça, c'est bien donner des infos que de réguler. Et donc on mise quand on régule, on mise sur le fait que l'enfant sera plus capable de s'auto-réguler ensuite, parce qu'il aura eu les informations qu'il avait jamais eues auparavant, quoi.
Avec l'exemple de la dalle de béton que tu donnes, je me rends compte qu'en fait cette tension entre mise en réussite et autodétermination, elle est plus, la question elle est plus présente quand il y a des gens qui sont quand il y a des personnes qui sont en fait sont totalement aliénées, totalement déresponsabilisées, et cette tension elle devient enfin on a besoin de plus se poser la question quand on est confronté à quand on est dans des sociétés où les gens sont ont des statuts très différents. Ouais, voilà, c'est ça. S'il y a des gens qu'on aliène totalement, on leur dit tu prends pas, c'est pas toi qui es responsable, t'as pas de moyens de produire des richesses, t'as pas le droit d'assurer ta propre sécurité, t'as pas accès à tel droit, t'as pas accès à tout ça. En gros, on lui supprime toute possibilité d'action. En fait, si cette personne, par la suite, agit, elle n'a même pas les moyens de se confronter aux conséquences. Et du coup, on est très fortement mis face à cette tension là, entre mise en réussite et autodétermination.
Mais ça arrive souvent, je trouve, par rapport au risque. C'est pas possible de t'égratigner le genou, quoi. Alors que, en fait, des fois, t'as eu besoin dans ta vie de mettre ta main proche du feu pour savoir que ça brûle. Et pouvoir le mieux le comprendre ensuite, quoi. Impossible de comprendre ça si tu l'as jamais testé.
Par contre, il te faut agir et réguler si le risque est trop élevé.
Oui, si tu mets l'entièreté de tes cheveux dans le feu, ça peut être compliqué.
Ou alors d'être brûlé au troisième degré, tu vois, c'est pas mourir, mais c'est trop.
Mais t'as plein de phases de test de est-ce que tu rapproches ta main de plus en plus, très lentement, pour pouvoir comprendre des trucs, quoi.
Mais là, tu parles du danger, etc. Ça me fait penser à une situation qu'on avait vécue avec Guilhem il y a peu de temps. On devait construire un cabanon, là. Et en fait, le temps, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Là, il y avait des personnes qui voulaient nous aider à des moments, et il fallait construire un cabanon en moins d'une semaine pour que des stagiaires puissent accéder à des sanitaires dans un camp nature, quoi. Et en fait, le temps, la contrainte de temps, elle était trop forte, et les personnes qui voulaient nous aider, ça nous mettait presque plus en difficulté parce que l'accompagnement nécessaire pour ça, ça veut dire que le temps de mettre en réussite la personne, le temps de lui dire comment ça fonctionne, comment tu mets la poutre, etc., ça prend du temps. Et donc à ce moment-là, c'est pas créer un espace d'émancipation à ce moment-là, c'est créer des obligations de réussite. Et moi, je me vois très bien dire des choses genre ah non, fais-le comme ça, et du coup créer des régulations que j'ai pas envie de faire, mais parce que la contrainte de temps est trop forte, tu le fais quand même et tu fais non, mais en fait ça faut le faire comme ça, non mais ne le fais pas comme ça, et peu importe, quoi.
Mais j'ai l'impression que la conclusion de ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'il existe des espaces ou des tâches où l'enjeu n'est pas énorme pour que l'erreur soit possible.
Oui, c'est ça.
Enfin, en fait, il faut examiner les conditions dans lesquelles c'est possible de faire des erreurs, et il faut que ces espaces où les erreurs sont possibles existent pour qu'il y ait des personnes qui puissent tester, et qu'on soit pas sans arrêt en train de se poser la question est-ce que je mets en réussite, ou est-ce que je permets à la personne de s'autodéterminer, puisque les deux seront possibles dans un espace où les erreurs sont possibles, quoi.
Bah là, en plus, dans cette situation, il n'y avait pas que ça, quoi. Il y avait du matériel qui était genre en nombre pile. Enfin, tout était ultra short. C'était vraiment genre pas possible de faire des erreurs, quoi.
Fallait pas couper à la mauvaise poutre, quoi.
C'est ça. Et du coup, moi, je me suis dit que c'était vraiment pas le moment pour apprendre à faire du bricolage de grande envergure, et j'ai désengagé direct.
Ouais. Est-ce qu'on clôturait?
Ouais. Pour synthétiser, on peut dire que l'émancipation, c'est s'autoriser à faire des choses qu'on s'était interdit jusqu'alors, qui nous étaient interdites par la société dans laquelle on vivait, dans la position dans laquelle on était, mais sans que ça devienne non plus des obligations.
Ouais. Et l'autodétermination, pour essayer d'avoir des repères, ce serait être autonome, être capable d'identifier ses dépendances et indépendances, être capable d'identifier ce qui agit sur nous de manière structurelle, et enfin, c'est d'être capable de s'autoréguler pas pour se faire du mal, mais s'autoréguler pour se faire du bien, justement.
Et du coup, c'est la fin de cet épisode sur l'autodétermination et l'émancipation. Et si vous voulez participer à ce podcast, c'est quoi ce gros mot, n'hésitez pas à envoyer vos idées à secondsouffle@pm.me. À bientôt.
À bientôt.
Salut.
Salut.
Second Souffle, un collectif libertaire
et anti-agiste.